Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission, je suis Abdel, avec moi
Dodo au micro,
Marco,
Amada au micro,
Ryan.
Dans notre émission, on avait envie de parler des apparences, des vêtements, des préjugés qui en découlent.
On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais est-ce bien vrai? Ryan, t'en penses quoi?
Pour moi, cette expression l'habit ne fait pas le moine devrait parler à notre génération. Notre génération, celle des enfants nés en 2000. Elle pense que le respect se fera par rapport à la tenue vestimentaire. En gros, avec les réseaux sociaux, on est influencé. On dirait que les marques sont importantes. Parfois, on a deux piles identiques et pourtant, on va privilégier celui qui a une marque. Personnellement, je pense que quand notre façon de penser est comme ça, notre état d'esprit est superficiel. Au lieu de vouloir montrer sa richesse à travers son apparence, ça serait mieux de montrer sa richesse intérieure. On dirait que ces personnes ont des choses à prouver, alors que quand on se détache de ça, on s'en fiche de comment on peut être perçu.
Et pourtant, c'est quand même important notre façon de nous habiller.
Bien sûr, la société nous catalogue. Nos tenues vestimentaires nous ramènent à une classe sociale. Ça serait utopique de penser qu'on peut aller au-delà de l'apparence. La société nous formate pour avoir ses préjugés. Mais une fois qu'on sait ça, le but c'est d'essayer d'aller au-delà et d'apprendre à connaître les gens.
Mais en fait, elle vient d'où cette expression « l'habit ne fait pas le moine » ?
Il y a deux hypothèses qui ressortent. L'hypothèse monégasque, ce serait François Grimaldi qui aurait pris l'apparence d'un moine pour s'emparer d'un château. Ou l'hypothèse papale, ce serait le pape Grégoire IX au XIIIe siècle qui aurait dit
« Ce n'est pas à l'habit qu'on reconnaît le moine, mais l'observation de la règle et la perfection de sa vie. Il faut ainsi faire la distinction entre l'être et le paraître. »
Le titre Pink de Janelle Monáe et une actu en lien avec cette couleur.
L'équipe nationale allemande a dévoilé son nouveau maillot pour jouer à l'extérieur. Gros pataquès en Allemagne.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a du rose sur le t-shirt. Pour certains supporters, c'est une couleur pour les filles ou associée à la communauté LGBT.
Et qu'en pense l'équipe ?
Le sélectionneur lui-même validait ce t-shirt.
Et toi, tu en penses quoi ?
Je pense qu'ils exagèrent. Dans l'article Elle Magazine, ils expliquent que le rose était associé au roi, sur les tableaux du Moyen-Âge. Le t-shirt va rester comme ça. On est en 2024, il y a du rose partout, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Je pense qu'il se vendra bien et que même les Allemands le porteront.
Encore une histoire d'apparence et de préjugés sur une couleur.
J'ai la banane Louis Vuitton, j'ai la grosse pièce de sang.
J'ai fait des sous et je m'habille à Décathlon.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.
J'm'habillerai tout en Gucci. Devant le miroir, j'me trouve BG. Un peu gêné quand la famille demande le prix.
Versace, 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 Versace.
Tu n'es vêtu que de balles. Espèce protégée en sac à main. Le monde est mien comme Tony le Cubain. Je veux pas m'enfuir.
Sauvette Calen, j'ai pas d'argent pour du Gucci ou Fendi.
Stan Smith sur pied, le regard froid. Il scrutait la salle un autre fois car en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni.
Tu sais ce que je pense comme pseudo gangster. En quête d'une seule réponse qui sera le plus riche du cimetière. Tu retardes pas le temps avec ta Rolex MC. T'es quand même mort enfermé dans un cercle Gucci.
En intro de l'émission, je parlais de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Comme vous avez pu entendre, les rappeurs font aussi de plus en plus référence à des marques de luxe dans leurs titres. Un peu comme les footballeurs, ils deviennent des influenceurs. Et ça peut donner envie d'acheter les vêtements qu'ils portent.
Et parfois, on n'a pas les moyens d'acheter ces marques. Heureusement pour certains, la fast fashion existe. D'ailleurs, elle était au cœur de l'actualité au début de cette année. Abdel, tu nous en dis plus ?
La fast fashion, ou mode rapide, en français, c'est quand une marque fabrique des vêtements très vite, très souvent et pour pas cher. Par exemple, sur le site Shein, chaque jour, 7000 nouveaux produits sont référencés. Cette façon de vendre des vêtements incite les consommateurs à acheter régulièrement et acheter le reste qui se retrouve dans nos décharges. C'est pour ça qu'on dit que ça va vite, même très vite.
Et c'est quoi le problème ?
Il y en a plusieurs. D'un point de vue économique, ces marques low cost marquent l'effondrement de marques Made in France. On voit disparaître de nombreuses marques qui n'intéressent plus les clients, comme Camailleux ou Saint-Marina récemment. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, parle même d'un enjeu de souveraineté. Il est inquiet pour les filières textiles françaises.
Ah oui ? Et pourquoi ?
Eh bien, ces marques comme Shein ou Temu n'hésitent pas à faire travailler une main-d'œuvre sous-payée et dans des conditions déplorables. Et d'un point de vue écologique, c'est la catastrophe. Et est-ce que vous savez combien on utilise de litres d'eau pour fabriquer un jean ?
Non.
7500 litres d'eau pour un seul jean. L'industrie de la mode est la plus polluante au monde. On estime que 10% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'industrie textile. En gros, c'est plus que l'ensemble des vols et transports maritimes à l'échelle de la planète. Et puis, il ne faut pas oublier tous ces vêtements usagés.
Ils sont recyclés, non ?
Eh bien, pas tant que ça. 80% des textiles ne sont pas recyclés. Les déchets sont enfouis ou finissent dans des containers envoyés directement en Afrique. Sur place, ils sont revendus aux populations qui peuvent en faire commerce, mais bien souvent, ils sont à nouveau jetés dans des décharges à ciel ouvert.
Ok, et alors comment on fait pour gérer ça ?
Déjà, prendre conscience de toutes ces infos. En France, le nombre de vêtements par habitant a triplé. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de vêtements dans nos placards ? Est-ce qu'on peut essayer de recycler et acheter d'occasion au maximum ?
Et l'État, il peut faire quelque chose pour ça ?
L'actualité du moment, c'est une proposition de loi déposée en mars par des députés. La proposition de loi portée par Anne-Cécile Violent, députée de Haute-Savoie, vise à instaurer un malus sur les marques de la fast, afin de limiter sa propagation. La loi veut aussi interdire la publicité pour les marques de la fast fashion.
Pourquoi le ministre de la Transition écologique soutient cette loi ?
L'enjeu écologique est plus important que l'enjeu économique. On rappelle des chiffres. 20% de la pollution des eaux est imputable au textile. 95% des habits en France sont importés. Selon les Nations Unies, l'Union européenne a exporté 1,4 million de tonnes de textiles usagés en 2022, soit plus du double par rapport aux années 2000.
Alors, à nous de faire des efforts quand on fait des achats.
On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guigo Lambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais, ça paie comme jamais. Y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, y'a Cocona Chanel, Cocona Chanel.
Luna, vous êtes éducatrice au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez présenté un jeu autour des préjugés. Quel est le but de ce jeu ?
C'est un jeu de société qui se joue à 3 personnes et plus et qui permet de mettre en lumière les clichés qu'on a tous et d'en discuter.
Est-ce qu'on a tous les mêmes préjugés ?
Alors, il y a vraiment des préjugés qui sont communs puisqu'il y a une part de responsabilité de la société et de l'éducation dans ces préjugés. Donc oui, on a beaucoup de préjugés en commun.
C'est quoi l'intérêt d'utiliser ce jeu ici en détention ?
L'intérêt de ce jeu en détention, c'est de pouvoir permettre un débat autour d'un outil un peu médiateur et de garantir un débat dans un cadre sécurisé et respectueux. Et par exemple, moi je pensais quand on y a joué que ça allait être beaucoup plus, que ça allait partir beaucoup plus dans tous les sens. Et en fait, ça a vraiment canalisé les échanges, ça a vraiment canalisé les débats dans une atmosphère vraiment en respectant la parole de chacun.
Et vous, qu'est-ce que vous imaginiez avant de venir travailler en détention ? Quel a priori vous aviez sur les détenus, sur la détention, quoi ?
Alors évidemment, moi j'en avais beaucoup des a priori sur la détention. J'avais tous les a priori qui sont véhiculés par les séries américaines, c'est-à-dire les tenues, les uniformes, les parloirs dans des grandes salles et tous ces préjugés qui, en France en tout cas, ne se justifient pas. Donc voilà.
Et maintenant, où vous en êtes avec ces préjugés ?
Moi, je suis très contente d'avoir de pouvoir intervenir en détention parce que ça permet vraiment de faire évoluer ma vision, en tout cas, du travail éducatif ici à l'intérieur d'une prison et de rompre avec ces images préconçues qu'on a avant d'entrer ici.
Selon vous, comment on peut aller au-delà des préjugés ?
Je pense qu'effectivement, en discutant, de toute façon, c'est un des seuls moyens qu'on a, c'est la communication. Et c'est de pouvoir aussi respecter la vision des gens et de rendre visible, par exemple, en détention, ce qui est vraiment la réalité de la détention. Je pense qu'en tout cas, plus on informe les personnes à l'extérieur sur ce qui se passe et ce qui se passe vraiment à l'intérieur des détentions, plus on luttera contre les préjugés.
Merci Luna.
Merci.
Vous avez peut-être, vous aussi, des préjugés liés à des apparences. Les vêtements, la tête des personnes, l'endroit d'où ils viennent. Et peut-être même que vous avez des préjugés sur les personnes détenues. Pourtant, au-delà des préjugés, il y a des réalités et des personnes. Abdel, tu as fait le point pour nous.
Comme l'a dit Luna, notre imaginaire est marqué par des représentations venues des séries américaines quand on parle de prison.
Oubliez les boulets, les uniformes et rentemplants. Ou encore
Michael Scofield. Des chiffres tout d'abord. En France, en décembre 2021, presque 170 000 personnes sont soumises à une obligation judiciaire en milieu ouvert. Et environ 85 000 sont incarcérées, c'est-à-dire en prison. Un quart sont en attente de jugement, donc toujours pas condamnés.
Et que dit l'Observatoire international des prisons ?
Le milieu social d'origine a un fort impact sur le parcours d'un détenu. Une large proportion de détenus est issue d'un milieu défavorisé et connaît une situation de grande précarité, avant et après la détention. D'ailleurs, un SDF sur deux est condamné à de la prison ferme en correctionnel contre 13% de ceux qui ont une adresse.
Les apparences et les préjugés qui en découlent peuvent vite s'imposer sur les détenus alors.
Heureusement, et comme on le dit tout au long de l'émission, on peut choisir d'aller au-delà de ces étiquettes. Certains font même le choix de travailler avec ces étiquettes. C'est le cas de Yazid Kerfi. Il a écrit le livre « Repris de justesse » en lien avec la sociologue Véronique Legault-Aziou. Après avoir été délinquant et incarcéré, il s'occupe aujourd'hui de jeunes dans des quartiers. Dans le livre, la sociologue qui l'a suivi montre qu'aucun parcours n'est tracé d'avance et irréversible. Aujourd'hui, Yazid Kerfi intervient dans des actions de prévention de la délinquance et insiste sur l'échange et le dialogue comme support. Son discours est un bon message d'espoir.
Mon travail, c'est d'aller dans une logique de paix. Ouais. Il faut qu'à un moment donné, se rapprocher pour pouvoir parler. Provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Et ça, c'est essentiel. Il faut la provoquer, cette rencontre.
Merci Abdel. On espère en tout cas que cette émission vous aura permis de réfléchir avec nous.
Merci pour votre écoute.
À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.